Renée Leys. août 1911. Nouvelle aventure. Nouvelle histoire un peu vexante pour ma perspicacité. Comment ai-je pu comparer Renée Leys à Robert Hart et même à Marco Polo? Comment ai-je accouplé cet admirable fils d'épicier belge à ce petit commis anglais et au neveu des marchands vénitiens? Je n'aurais pas dû lui dire « Vous êtes aussi fort que Robert Hart et Marco Milioni ». Je lui fais toutes mes excuses. Il fallait dire « Vous êtes allé plus loin dans la pénétration de la Chine que tous les Européens connus et à connaître. Vous avez atteint le cœur du milieu du dedans. Mieux que son cœur, son lit. » Et voici que ce roman secret et policier, si jamais il m'incombait l'indécente hypothèse de l'écrire, voici que ce roman vient tout d'un coup d'avouer son héros, véritable, authentique, vivant, en la personne de l'oiseau le plus rare de tous les romans bleus et roses des deux mondes, le phénix. Ce héros est une héroïne, ce phénix est femelle. Déjà, j'en ai trop dit. Tout lecteur chinois de ces notes a dû comprendre. Mais, ayant compris, je doute qu'il ait fait comme moi, qu'il ait cru. Il faut avoir la foi réceptrice d'un voyageur étranger épris de ce pays pour admettre sans scrupule ce qu'un lecteur indigène déclarerait sacrilège, immoral, scandaleux, incorrect, inhabituel. Et pourtant, combien tout ce qui suit devient logique et nécessaire, inévitable. Des paroles qui pouvaient tout d'abord sembler maladroites se précisent. Et je lui rends justice, pleine justice, à cet amoureux triomphant, à ce vainqueur Renée Leys. Quelle revanche de l'assaut des légations en 1900! Il vient d'assiéger et de vaincre le cœur impérialement clos, la personne triple et quadruplement enceinte, l'inexpugnable, la mère de l'Empire, l'aïeule des 10 000 âges. C'est même ce dernier détail qui me fait croire à ce miracle d'amour. La différence de condition sociale ou de race, subrogeant sur une simple différence d'âge, surtout à rebours. Si je compte historiquement, Dame Longyou possède à elle toute seule 38 à 40 ans. Lui, pas même 18. Les probabilités chronologiques sont fortes. Et d'ailleurs, je tiens le document. Il semble qu'à chacune de ces nouvelles aventures, de ces nouveaux avatars, Renée Leys ait soin de me fournir galamment les raisons de croire. Voici 3 jours, c'était le reçu en règle de cette première nuit. Il faudra bien me décider à le lui retourner. Il en aura sans doute besoin pour marchander la seconde. Aujourd'hui, c'est un poème en prose, une sorte d'épître lyrique. Le papier en est d'ailleurs parfaitement ridicule. Des fleurs simili-bleues sur un vert et rose sentimental. Une enveloppe moirée crème et beige alangui. Cela commence par « Mon cher Victor, déjà, je m'autorise de nos conversations antérieures pour te tutoyer en prose à la chinoise comme font en vers les bons amis. Je t'écris pour te dire que tu avais parlé juste. Puisque tu m'avais questionné, est-ce qu'une Mandchou peut aimer un Européen et en être aimé ? Permets-moi de te dire que c'est possible et que je le ressens. Puisque tu t'intéresses à tout ce qui la touche, comme moi, là est précédé de la majuscule impériale. Je m'empresse de te communiquer ce qui suit. Hier, trouvant qu'il faisait trop chaud, elle eut l'idée de se promener ensemble, sic, sur la mer du Sud. C'était le soir, Les derniers rayons du soleil doraient le sommet de la tour blanche et une légère brume couvrait le lac. Je me revois encore, habillé en mandarin de quatrième classe, assis près de sa chaise, derrière laquelle se tenaient deux eunuques et trois dames d'honneur, abandonné dans mes pensées au doux balancement du bateau impérial. Tout à coup, j'entendis derrière nous des coups de gong et de tambour. C'étaient des eunuques qui suivaient dans une autre barque, chantant des airs antiques, sans aucun rapport avec ceux que j'ai appris au théâtre de Tianmenhuai, mais qui n'en charment pas moins. Quand nous descendîmes de bateau, et quand nous nous retrouvâmes plus seuls dans la chambre orange, elle me montra une poésie qu'elle avait composée en m'attendant, et qui disait « Pourquoi l'aimer ne peut-il pas rester éternellement auprès d'elle ? Le poisson et sa femelle nagent bien ensemble dans le lac aux eaux colorées de cinq couleurs par les feuilles des 10 000 arbres qui se mirent, sic, sur ses bords. Le paon et la panne volent pourtant plume à plume dans les airs embaumés. Mais je crois l'apercevoir, une douleur bien connue fait tressaillir le sein du phénix. Le reste en prose, moins poétique, est tel un commentaire. Juge, mon cher ami, de la tristesse que j'éprouve à me retrouver le lendemain matin faisant mon cours d'économie politique. Ma classe est au premier étage du bâtiment de l'Ouest, et de mes fenêtres, on aperçoit les toits jaunes des palais impériaux. Je ne puis m'empêcher de penser que c'est là qu'habite celle avec qui je causais la veille. Qu'en dis-tu ? Ceci fait-il bonne figure dans les documents et souvenirs que tu cherches sur lui ? P.S. J'allais dire police secrète. Post-scriptum. N'oublie pas surtout de déchirer cette lettre. Voilà qui est fait. 4 septembre 1911. J'ai eu tort. J'aurais dû la conserver, cette lettre, première, ou tout au plus seconde. Voici la troisième. Il serait fructueux de comparer les premiers billets d'excuses qu'il m'écrivit, voici quelques mois. C'était gauche et enfantin. L'écriture reste encore indécise, mais avec des barres, un appuyé, des majuscules qui n'existaient certes pas ainsi dessinées, et d'ailleurs que je reconnais fort bien. Cette M aux deux jambages durs et verticaux, ce V prolongé d'un trait horizontal, cet S certainement lancé de bas en haut. Oh, je sais à quelle écriture il vient de les emprunter. À la mienne. Voilà qui est, tout à rebours, surprenant. Je constatais l'influx chinois découlant de ce maître en vie pékinoise. J'étais loin de me croire exercer une action calligraphique et sournoise sur lui. Elle est flagrante. Je relis curieusement ce billet, malgré sa banalité. « Mon cher ami, j'ai un conseil à vous demander. » Prosaïquement, il a repris le « vous ».« Voulez-vous que nous fassions de bonne heure, demain, une promenade à cheval ? Je crois bien que nous en avions parlé. Je vous serre la main. René Leys. » C'est vrai. Nous étions convenus d'une promenade à cheval un matin, de très grands matins. Mais qu'est-ce donc qui importe ? La promenade ou le conseil à lui donner ? Sur sa vie officielle chinoise ? D'avance, je me récuse. Il semble la conduire assez loin. Sur sa vie officieuse ? Attendrait-il les avis qui ne manquent jamais aux jeunes mariés ? Ou, s'il a dessein d'être fils rancunier, va-t-il falloir lui dicter des remontrances irrespectueuses à son père ? Demain. Avant de m'avoir laissé l'heure décente du réveil, il est là. Déjà. Un grand beau jour, mais on devine encore à peine s'il fera bleu clair ou cendré de plomb. Lui me prédit que le temps sera merveilleux. Il respire le dehors et l'air froid. Il m'enlève. Nous voici dans la pleine campagne, à travers les champs de sorgho aux tiges plus hautes que nous en selle, au long des canaux pleins d'eau tiède de l'été, à travers toute la plaine qui, de la mer aux montagnes, contient ma ville capitale, la soupèse, la porte, l'entoure, la breuve et la nourrit. Ce n'est rien de tout cela qui l'occupe. Il choisit son moment, me prie de mettre les chevaux au pas, il est bien temps, nous sommes partis à un train de 3000 mètres haies, et répète les termes de sa lettre. J'ai un conseil à vous demander.
Entendu.
Je voudrais savoir ce que vous feriez à ma place. Qu'il me permette tout d'abord de m'y mettre à sa place. Quelle est-elle exactement? Vous vous rappelez de cette concubine? J'ai fort envie de reprendre mon professeur. Vous rappelez-vous cette concubine? Il est belge et manifestement ému. Double excuse. Cette concubine que m'a offerte le régent?
Oui.
À ma place, qu'est-ce que vous en feriez?
Comment? Ça n'est pas encore fait?
Si j'avais le loisir de répondre, je répondrais certainement « Suivez le conseil de l'ami de votre ami Kuang Xiu. Vous vous étendrez sur elle et vous agirez. » Mais il interrompt jusqu'au silence de mes conseils.
« Je ne veux pas dire, » il rougit.
« Enfin, je ne sais pas s'il faut l'accepter officiellement. »
« Accepter, croyez-moi, accepter au moins officieusement.
Vous m'avez dit que cette jeune offrande n'est déplaisante ni d'âge ni de forme. Auriez-vous alors des raisons politiques ? » Il saisit la perche que je lui plante. « Oui, des raisons politiques. Elle ne le permettrait plus. » Il a donné au pronom « elle » la même majuscule impérialissime qui se réserve rituellement à lui, avec l'inflexion de la voix équivalente au lever respectueux des deux points réunis. Et il se renferme dans le silence tardif qui suit d'ordinaire les moments où l'on feint, après coup, d'en avoir trop dit. À mon tour de partir au galop. J'ai besoin de détente, de joie vive. Je suis follement gai. Il vient de me confirmer si crûment, si franchement, dans l'aveu poétique de la lettre. Quel brave enfant! Seul, j'aurais mis 10 ans à entrebâiller la porte basse dont il m'ouvre les devantaux. Quand je m'arrête, un peu essoufflé, je le vois à la hauteur de l'épaule de mon cheval, me répéter d'un air attentif « Qu'est-ce que vous feriez à ma place ?»«
Oh, à votre place, je me féliciterais d'abord d'en être arrivé là.
Et puis, j'essaierai de tenir le plus longtemps possible. Les audiences de grandes dames relèvent d'un protocole assez capricieux. Et j'attendrai avec confiance qu'après m'avoir ouvert la porte au nez, on me la referme au derrière. » Oui, c'est bien ce qu'il fallait lui répondre. Il ne faut pas lui laisser monter ce grand cheval. Amour d'impératrice. Le sport est un peu trop près de l'écurie. Il faut surtout l'empêcher de prendre ceci très au sérieux. Je vois clair et mon conseil aura du bon. L'impératrice a daigné tromper son veuvage en s'égayant de la présence auprès d'elle, pour quelques nuits, de ce jeune Européen vêtu d'un contour de peau romantique. Il est vraiment beau, même à la chinoise. À l'exception d'un nez que j'estime parfait et qui doit ici passer pour une trompe, mais qu'elle lui pardonne sans doute comme un signe de race. Une princesse pardonne à son singe favori de posséder une vilaine queue poilue, de grimacer et de mordre. Peu importe, pourvu qu'il l'aime. Mais lui, avec une ferme précision, remet toutes choses à leur point. Il ne s'agit pas de se préparer à quelque disgrâce. Il me semble bien sûr de son fait. Et je comprends tout.
le débat n'est ni tragique, ni biblique, ni comique, encore moins appassionné sur le mode hugolâtre, mais ressort tout entier du programme qu'il professe à l'école des nobles, économie politique. Je veux dire à la fois politique générale et avarice privée. Le tout résumé dans cet aveu définitif. Je ne peux pas lui déplaire. Lui, pronom féminin avec majuscule impériale. C'est d'elle que dépend toute ma situation. Donc, au fond de tout ceci, le traitement de tous les mois augmentés ou supprimés. Ce n'est donc que cela. Le peu d'amour qui, par extraordinaire aventure, aurait pu se glisser entre l'amante millénaire et son jeune concubin, ne s'est pas glissé. Pour la première fois, ce garçon m'a déçu. 7 septembre 1911. Il est vrai qu'à bien réfléchir, plus encore à bien compter, la situation en vaut la peine. Que son père se rassure entièrement sur l'avenir et le présent de son fils. Il m'annonce aujourd'hui à déjeuner, coup sur coup, qu'il est autorisé à porter la veste de cheval et qu'il est nommé grand trésorier payeur de tous les princes du dedans. Je ne sais de quoi il convient de le féliciter davantage. Le port de la veste de cheval, du makoua, est sans doute un honneur extrême. La veste en question est un véritable vêtement de couleur jaune, mais comparable, si j'ose dire, à un chapeau, au couvre-chef que les grands d'Espagne gardent noblement sur la tête dans certaines églises où ils entrent, comme la veste, à cheval. René Ley s'en est fier, car seuls jusqu'ici, quelques princes du sang et les ducs au casque de fer et quelques anciens conseillers chinois ont porté cet habit jaune. Et le grand tuteur un tel, et le prince mongol un tel et un tel, et le vice-roi des deux Hou et d'autres encore, n'ont jamais, jamais pu l'obtenir. C'est bien cela. La qualité rare de la vertu de cet ordre consiste éminemment dans le mépris de ceux qui le possèdent pour ceux qui l'ont manqué de peu. En quoi cette distinction ressemble à tous les ordres du monde? L'autre titre est bien plus pesant, plus sonnant. René Leys est prêt à me chiffrer les mensualités qu'il devra désormais compter lui-même à chacun des princes. C'est ainsi que ce brave Poulouen, bien connu des joueurs de billard européens, et cependant ex-futur héritier du trône par son ancêtre direct, Tao Kuang, 10e empereur, Poulouen émarge pour 11 000 taels à chaque lune, le régent pour 55 000. Quant à la douairière Long Yu, outre sa cassette particulière, savez-vous ce que lui rapporte le titre qu'elle porte, Long Yu? Oui, oui, on l'appelle Long Yu. Ce n'est pas son nom, c'est un titre, offert du bout du pinceau du régent, un titre qui la met au-dessus de toutes les vieilles concubines Tong Che. Eh bien, ce titre lui vaut 10 000 taels de plus tous les mois. Je feins l'éblouissement. Deux mots. Deux caractères honorifiques ont-ils donc à la Chine un si grand pouvoir financier? Je comprends que la situation de René Ley soit solide. Je totalise et je conclus. Oh, vous me paraissez en bonne posture. Vous voilà donc en même temps ami du régent et ami de l'impératrice. Vous réconciliez à travers vous la dynastie. C'est un grand service rendu. Comment l'ont-ils reconnu? Il me répond avec modestie et précision. J'ai reçu l'avis que mes appointements étaient portés à 14%. Certes, je ne me risquerai pas à demander 14% de quoi? Cela doit être extraordinaire. je félicite en toute confiance. 20 septembre 1911. Et pourtant, aucun doute, il aime et il est aimé. Ce n'est plus seulement ces majuscules qui se redressent et prennent tournure virile, mais son air d'enfant aventureux s'est changé en un contentement rassis, très satisfait de soi-même, un peu replié au lendemain de grande audience. Il semble que quelque chose se soit décidément développé, transformé, révélé. Serait-ce ? Et tout d'un coup ce scrupule me prend. L'impératrice aurait-elle été pour lui non seulement une amante après quelque autre, mais, qui sait, la révélatrice, l'initiatrice? Bien des choses me le feraient supposer. Il est vraiment délicat de le presser là-dessus. Délicate, lorsqu'il s'agit d'une fille, malgré les preuves, la question devient presque impossible à poser quand il s'agit du sexe auquel je dois le mien. Il est vrai que la poésie, bien entendu, permet toute licence. Et ce que l'on ne doit exprimer en paroles vulgaires demeure toujours possible à renier. Lui-même, en me faisant sous forme de lettre poétique l'aveu de la première nuit, m'invite à prolonger la correspondance sur un mode équivalent. Donc, je compose et recopie avec grand soin, sur papier filigrané de fleurs pâles, transparentes et indiscrètes, le poème suivant. Le jour nocturne où la phénix femelle reçut dans son nid le fils de l'aigle étranger, qui des deux a tressailli d'amour ou d'ignorance? La phénix, ayant par devers elle une déjà longue existence, sait tout, et bien des choses encore. Mais le fils de l'aigle veuf vient à peine d'ouvrir ses ailes. Il bat à coup précipité, il succombe. Lequel des deux ouvrira pour l'autre le sein bienheureux, si ce n'est elle-même, la phénix éternelle, maternelle, qui l'accueille, qui le garde, qui le reçoit comme un hôte dont on précède, dont on provoque tous les pas. J'aurais beaucoup aimé écrire d'un seul jet de pinceau ancien, en style coulé dans le bronze des vieux caractères Chuan, ce petit poème que j'ose affirmer de circonstance. Je dois me contenter de le retraduire en français, d'un chinois qui ne fut pas. Je m'abstiens de le commenter. Il me paraît assez clair. Elle l'expédie par la poste à l'adresse de M. René Leys, professeur à l'École des Nobles. S'il comprend, il me répondra. Ceci n'est pas très insultant. J'ai mué, par licence permise, le fils d'un épicier en aiglon.